Je vous invite à prendre dans vos Bibles Galates chapitre 5 que nous venons de citer. Le sujet ce soir, c'est l'amour, le fruit de l'esprit. Et j'aimerais que vous notiez le contraste entre la chair de l'homme et l'esprit de Dieu. La chair humaine d'un côté, l'esprit divin de l'autre. La chair dans tout son péché, d'un côté, sa bassesse, et puis l'esprit dans toute sa sainteté et sa grandeur de l'autre. C'est l'image de nous, tels que nous sommes, d'un côté, et de Dieu et de ce qu'il peut faire en nous. De l'autre. Voici le contraste que nous trouvons en Galates chapitre 5 et je commence au verset 13 où il dit: Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans cette une seule parole, celle-ci: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, verset 16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, c'est-à-dire votre chair et l'esprit de Dieu. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez, comme on nous a expliqué dimanche, hein, comme vous dans votre chair ferez naturellement l'esprit dans sa puissance vous empêche de suivre votre chair. Verset 18, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, et il donne toute une liste des œuvres de la chair. Et il dit à la fin du verset 21, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, mais, verset 22, le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Voici donc la parole de Dieu. Elle est vraie, elle est éternelle, elle est puissante et elle est la nourriture dont nous avons besoin pour vivre cette vie selon l'esprit. Alors vous notez qu'il y a un seul fruit ici. Au verset 19, il dit: Or les œuvres de la chair, et c'est dans le pluriel. Et puis au verset 22, il dit: Le fruit de l'esprit, c'est. Donc un seul fruit qui a diverses facettes. Et nous allons prendre ces différentes facettes, parties de ce fruit l'un après l'autre. C'est le fruit de Dieu. Et c'est la première remarque que je veux faire ce soir, c'est que Dieu d'abord est la source de l'amour. Dieu est la source de l'amour. C'est avant tout un fruit de Dieu, un fruit de l'esprit. Nous voyons le Dieu trinitaire à l'œuvre pour nous rendre des objets de l'amour divin. Je vais juste vous citer plusieurs versets que vous connaissez peut-être déjà, mais nous voyons d'abord, toujours considérant le fait que Dieu est la source, nous voyons les trois membres de la Trinité. Nous voyons que Dieu le Père déclenche peut-être il y a un meilleur mot, mais j'ai trouvé ce mot qui déclenche, initie le plan d'amour. Éphésiens 1, verset 11 parle du plan, c'est aussi traduit projet ou résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Dieu a un plan, il a un projet, il a une résolution. Et nous découvrons que ce plan est un plan d'amour. Éphésiens 1, verset 5 dit « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Prédestinés donc dans son amour. Jean 3, 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Éphésiens chapitre 2, les versets 4 et 5 dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause, écoutez ceci, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Pourquoi ? À cause du grand amour dont il nous a aimés. » Et puis Romains 5, verset 8 dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, vous voyez que l'amour présent et actif même de Christ est prouvé par une action passée, achevée. Dieu prouve son amour actuel pour nous en ce que lorsque, avant, nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et Tite 3, versets 4 et 5 dit que lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Hein, lorsque son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. C'est la démonstration de son amour. Dieu le Père met en œuvre, il déclenche ce plan d'amour. Et puis Dieu le Fils exécute le plan d'amour. Donc nous voyons que l'amour vient de Dieu le Père, mais l'amour aussi vient de Dieu le Fils. Jean 13, verset 1, l'évangéliste nous dit qu'avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, il allait le faire le lendemain, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, il les aima jusqu'à l'extrême. Les ayant aimés, il les aima jusqu'au bout, dit une autre traduction. Jean 15, verset 9, Jésus parle et dit « Comme le Père m'a aimé, moi je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Et puis il a dit, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et il allait faire exactement cela le lendemain. Romains 8 dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Puis il dit verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a... » Quel est l'adjectif ? Quel est le verbe ici ? « Par celui qui nous a aimés. » Aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc celui qui nous a aimés est dans le contexte du verset 35, l'amour de Christ. Et puis, dans le conte selon verset 39, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, c'est Dieu le Père, c'est Dieu le Fils. J'ai lu le récit d'un prédicateur écossais au XVIIe siècle qui allait bientôt mourir. Et il a demandé à ses enfants de lire ce passage en Romains 8. Et puis, il a dit dans sa faiblesse, « Mets mon doigt sur ces mots. » Il venait de lire « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il a dit, mets mon doigt sur ces mots. Dieu soit avec vous, mes enfants. J'ai déjeuné avec vous et je souperai avec mon Seigneur Jésus cette nuit. Je meurs en croyant à ces paroles. Quel témoignage de mourir, sachant que nous sommes enveloppés dans l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, Dieu le Père déclenche le plan d'amour, Dieu le Fils exécute le plan d'amour, et puis Dieu le Saint-Esprit applique cet amour à nos cœurs. Romains 5, verset 5, écoutez bien, il dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. » Comment ? « Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Appliquer cet amour, déclenché par le Père, exécuté par le Fils, il va maintenant déverser cet amour dans nos cœurs grâce à sa présence. Donc, le Dieu trinitaire est la source de l'amour. Et puis, deuxièmement, nous pouvons dire que Christ, Dieu le Fils ou Christ, est l'exemple suprême de l'amour. C'est un fruit de l'esprit et quand nous voulons voir l'exemple extrême, l'exemple suprême de cet amour, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jean 13, je lis à partir du verset 12, « Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Oui, c'est Jésus-Christ qui le dit lui-même. Je vous ai donné un exemple en lavant les pieds de ses disciples. Il est l'exemple suprême de l'amour. Et ce que nous voyons, c'est que les actes d'amour ne dénigrent jamais la personne qui les accomplit. Mais même si ces actes sont très insignifiants, parfois, il y a des choses qu'on ne veut pas faire, on se dit, je suis trop important pour ça, je suis trop important pour balayer ou pour faire le ménage ou pour faire la vaisselle chez quelqu'un. Mais nous voyons dans l'exemple de Jésus que les actes d'amour ne dénigrent jamais la personne qui les accomplit, même s'ils sont insignifiants. Nous avons le maître, il se dit « Je suis votre maître » et il arrive et il est là en train de laver les pieds. Ils n'ont pas rabaissé le Seigneur de gloire. Comment peuvent-ils alors nous rabaisser, nous dénigrer ? Nous pouvons nous donner à des tâches même les plus insignifiants pour suivre l'exemple de notre maître. Et le même soir, Jésus, dans son rôle de prophète, il donne un nouveau commandement et il dit, c'est verset 34 de Jean 13, « Je vous donne un commandement nouveau. » Et c'est quoi ? « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et un peu plus tard, le même soir, il dit, Jean 15, 12 et 13, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Romains 5, versets 7 et 8, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Pour nous, Christ est l'exemple suprême de ce que c'est l'amour. Et quelqu'un a dit que l'amour est le seul attribut que Dieu a exercé au maximum. Il a dit, nous n'avons jamais vu le maximum de sa puissance. Nous n'avons jamais vu toute la puissance que Dieu a. Mais nous avons vu le maximum de son amour. Nous avons vu tout son amour jusqu'à l'extrême, jusqu'à se donner lui-même sur la croix. Donc, le Dieu trinitaire est la source de l'amour. Christ est l'exemple suprême de l'amour. Et maintenant, nous allons nous rapprocher un peu plus de nous aujourd'hui. Et nous pouvons dire troisièmement que l'amour de Dieu est la motivation suprême de notre amour. Si nous allons aimer, quelle sera la motivation suprême? Ben, je vous dis que l'amour de Dieu pour nous est la motivation suprême de notre amour pour les autres. 1 Jean 3,16 dit « Nous avons connu l'amour ». Vous voyez, nous avons connu l'amour de Dieu pour nous en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Vous voyez comment il va de l'un à l'autre. Nous avons connu l'amour de Dieu, Christ a donné sa vie pour nous, et bien ça nous motive. Nous devons aussi donner notre vie pour les frères. Le fait de connaître l'amour nous pousse à montrer l'amour. Et puis, il y a aussi un passage sous ce thème en Tite 3 que je trouve très instructif. Il dit, Tite 3, verset 1, « Rappelle à tous qu'ils ont à se soumettre au gouvernement et aux autorités, qu'ils doivent obéir, être prêts à accomplir toute bonne œuvre. Hein, » nous avons besoin de ces rappels, n'est-ce pas? Même en tant que chrétien. Il faut se soumettre aux gouvernants et aux autorités qui doivent leur obéir et être prêts à accomplir toute bonne œuvre, qu'ils ne dénigrent personne, mais qu'ils soient au contraire conciliants, courtois et qu'ils fassent preuve d'amabilité envers tous les hommes. Vous voyez, il faut montrer l'amour. Courtois, fasse preuve d'amabilité envers tous les hommes. Et puis, il dit ceci au verset 3. « Car il fut un temps où nous-mêmes nous vivions en insensé, dans la révolte contre Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nos jours s'écoulaient dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions haïssables et nous nous haïssions les uns les autres. Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. » Vous voyez le lien qu'il fait? Il dit en somme, vous devez être gentil envers les autres. Vous devez montrer la patience, la bonté envers les autres. Parce qu'il faut vous rappeler qu'il y a un temps où nous étions comme eux, haïssables, nous haïssant les uns les autres, et Dieu nous a montré son amour, et dans son amour, il nous a sauvés. Donc, vous faites pareil. C'est ça la logique de ce passage en Tite chapitre 3. Et un autre passage qui est peut-être encore plus connu, c'est Philippiens chapitre 2, où il dit « Ne faites rien par esprit, de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres affaires, considère aussi ceux des autres. » C'est un appel à l'amour. Et puis il dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Vous voyez aussi encore la logique ici. Vous devez vous aimer les uns les autres, vous devez avoir l'esprit de Jésus-Christ. Regardez Jésus s'humiliant jusqu'à la croix. La motivation suprême pour notre amour est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais c'est encore plus que cela. Et ça, c'est ma dernière remarque. Et c'est la plus difficile à exprimer, c'est la plus difficile à comprendre parce que ça exprime même la vie elle-même qu'a l'amour en nous. Et je vais le dire ainsi, l'amour de Dieu est la source ultime de notre amour. C'est plus qu'un exemple, hein. C'est plus même qu'une motivation. L'amour de Dieu est la source, la vie de notre amour. C'est ici où nous voyons vraiment que c'est un fruit de l'esprit, un fruit divin, qu'un être divin produit en nous. Parce que Dieu nous donne plus qu'un exemple, il nous donne plus qu'une motivation. Ces choses peuvent rester externes, ils peuvent rester à l'extérieur de nous. On peut voir un exemple et Voilà, on peut être motivé en voyant quelqu'un, en entendant quelque chose, mais sans avoir la force, sans avoir la vie de pouvoir faire pareil. Mais l'amour de Dieu en nous est la source de notre amour. Elle est la vie de notre amour. Elle est le moteur, si vous voulez, de notre amour. 2 Corinthiens 15, verset 14, est un verset que j'aime beaucoup à ce propos, car il dit, 2 Corinthiens 5, 14, « Car l'amour de Christ nous presse. » L'autre traduction, c'est que l'amour de Christ nous est étreint. Cette idée de « elle met ses bras autour de nous, elle nous rend captifs, elle nous rend prisonniers dans un sens. » L'amour de Christ nous presse, nous étreint, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Parce que dans sa mort pour nous, nous sommes aussi morts avec Jésus-Christ. Et nous sommes libérés par Christ, mais emprisonnés par l'amour. Vous savez que si vous avez vraiment l'amour pour quelqu'un, il y a des choses que vous ne pouvez simplement pas faire. Même si on mettait un pistolet à la tête, si vous aimez vraiment votre enfant, votre mari, votre femme, votre ami, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. L'amour est plus puissant que de grandes eaux, dit Salomon dans son chant. Plus puissant que la mort elle-même. Et l'amour de Christ, qui est le plus grand des amours, a sa plus grande force aussi sur nous. Elle nous presse, elle nous contrôle, nous devenons esclaves de son amour, il nous aime. Et cet amour nous pousse à agir. Nous voyons cette relation aussi, je crois, en 1 Jean chapitre 5, où il dit, je commence au premier verset, la deuxième partie du premier verset, « Celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui. » Donc, celui qui aime le Père qui engendre ou qui donne la vie, aime aussi celui ou ceux qui sont nés de Dieu. Ça parle de Dieu. Si on aime Dieu, on aime aussi les enfants de Dieu. Et voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Il y a ce lien intime et inséparable, dit l'amour, dit la parole de Dieu, entre aimer Dieu, aimer Christ, aimer les enfants de Dieu et se soumettre à la parole et aux commandements de Dieu. C'est tout un paquet. Si nous avons cet amour, nous allons aimer les frères et sœurs en Christ et nous allons nous soumettre aux commandements de Dieu. Ryle, le prédicateur anglais, dit que cet amour pour le Christ est le compagnon inséparable de la foi salvatrice. La foi de diable, une simple foi intellectuelle, un homme peut avoir sans amour, mais ce n'est pas la foi qui sauve. Alors il clarifie, il dit « l'amour ne peut pas usurper le rôle de la foi ». L'amour ne peut pas nous justifier, l'amour ne relie pas l'âme à Christ. Il ne peut pas nous apporter la paix à la conscience. Mais là où il y a une véritable foi en Christ qui justifie, il y aura toujours un amour sincère pour Christ. Celui qui est vraiment pardonné est l'homme qui aime vraiment. Jésus l'a dit en Luc 7, 47, que celui à qui on a pardonné beaucoup aime beaucoup. Et c'est ce qu'il dit ici. Celui à qui est vraiment pardonné est l'homme qui aime vraiment. Si un homme n'a pas d'amour pour le Christ, vous pouvez être sûr, il n'a pas la foi. Vous voyez, tout ce paquet va ensemble. Ça ne veut pas dire que notre amour est parfait, mais c'est l'amour de Dieu qui est répandu par son esprit dans nos cœurs et c'est son amour à travers nous, en fait, qui aime les autres. Et nous devons le penser comme ça, presque comme si on prenait l'amour qui descend du ciel et on le courbait et pour le pointer vers les autres. Le tuyau qui descend du plafond, on va le tourner pour pour toucher les autres. C'est pas notre amour. C'est l'amour de Dieu à travers nos vies. C'est pas nous qui donnons la force et la vie à cet amour. Cet amour vient de Dieu. 1 Jean 4, verset 16 dit, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Vous voyez, c'est inséparable. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Vous voyez ce lien? Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est le rebond de son amour envers nous. C'est pour ça que l'amour de Dieu est la vie. Elle est la source même de notre propre amour. C'est pour ça que c'est le fruit de l'esprit en nous, pas notre propre fruit. L'amour est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mais filtré à travers ma vie et puis radié envers les autres, démontré envers les autres. Alors, je termine avec cette citation du prédicateur Horace Monneau, pas aussi connu que son frère au 19e siècle, mais il dit ceci, je trouve que c'est très bien, il dit « Du jour où l'homme s'est séparé de son Créateur, il parle de la chute, il s'est constitué lui-même le rival secret de toutes ses affections, rival préféré, rival jaloux et d'une habileté infinie à revêtir tous les caractères et jouer tous les rôles pour maintenir sa prépondérance. De là vient que l'amour qui pourtant ouvre devant nos yeux de si radieuses perspectives nous inspire au fond de si intimes répugnances. S'il nous apparaît comme la chose la plus belle, il parle de l'amour, elle nous apparaît comme la chose la plus belle, il nous frappe pas moins comme la plus austère. Ça, c'est l'amour à la vue de l'homme. À la fois, il pense que l'amour, c'est la chose la plus belle, mais de l'autre côté, c'est l'amour la chose la plus austère. C'est une chose qu'il ne veut pas faire. Tout le monde dit que l'amour est beau, tout le monde dit que l'amour est bien, mais l'amour, c'est la dernière chose qu'on veut montrer envers notre prochain. C'est ça de quoi il parle. Il dit que l'amour ouvre devant nos yeux de si radieuses perspectives, nous inspire au fond, mais de si intimes répugnances. L'amour apparaît comme la chose la plus belle et l'amour nous frappe pas moins comme la plus austère. Nous sentons bien qu'aimer, c'est renoncer à soi-même. Aimer, c'est mettre un autre à la place de soi. Aimer, c'est se donner, et se donner serait peut-être le mouvement le plus naturel de l'homme avant la chute. Mais l'homme est tombé, et nous nous séduisons nous-mêmes, et sans nous en douter, nous mettons notre moi presque toujours en première place dans nos plus sincères affections. Nous nous efforçons d'aimer, nous croyons aimer même, et il se trouve que nous n'avons fait que nous rechercher ingénieusement nous-mêmes. C'est très profond ce qu'il dit. Il y a des couples qui s'unissent et ils pensent aimer, comme il dit, ils croient aimer, mais ils trouvent qu'à la fin, ils se recherchaient ingénieusement eux-mêmes. Ils recherchaient simplement à se faire plaisir, à se mettre en avant. Écoutez bien. Il dit le langage que tient Jésus à ce cœur amoureux de lui-même, à ce cœur esclave, enchaîné et honteux. Il ne commence pas par lui dire « aime », il commence par lui dire « je t'aime ». Il dit comment Jésus a-t-il réveillé dans le cœur de l'homme la puissance endormie de l'amour ? Je réponds d'un mot. Par le mystère de sa croix, tout est là. Fin de citation. Voyez comment Jésus nous appelle à aimer. Ce n'est pas en nous disant en premier lieu « aime », mais en nous disant « je t'aime » et en prouvant son amour pour nous. Il ne nous demande pas de faire ce qu'il n'a pas fait lui-même. Il a déjà fait beaucoup plus que nous pourrions faire nous-mêmes. Il nous a déjà donné beaucoup plus qu'on pourrait jamais donner à un autre, car il a prouvé son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, ennemis, rebelles, Christ est mort pour nous. Donc l'amour de Dieu est la source de notre amour. Si nous aimons vraiment un autre, nous ne devenons que les moyens, le viaduc, le canal de l'amour divin que Dieu nous montre. Que Dieu nous aide donc à porter cet aspect du fruit de l'esprit, l'amour. Et comme Paul dit, ce que je prie pour vous, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous te remercions de ce que, quand nous parlons de l'amour, nous ne parlons pas d'une philosophie abstraite. Nous ne parlons pas de choses vagues et mystérieuses et incompréhensibles. Mais nous avons devant nous un exemple très tangible et concret, la croix de Jésus-Christ. Et nous voyons dans la croix de Christ l'exemple suprême de l'amour et la motivation suprême pour l'amour que nous montrons et la force aussi et la vie et la source de l'amour que tu désires produire en nous. Ô Seigneur, par ton esprit, produis en nous de plus en plus de cet amour, que notre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que nous puissions porter beaucoup de fruits à ta gloire. Nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et dans son grand amour qu'il vous garde.